secteur des transports entame son 12e jour de grève ce lundi contre la réforme des retraites. La CGT a été claire, tant que le gouvernement ne retire pas son projet, le mouvement va continuer, même pendant Noël. Un droit pour le syndicat, du chantage, répond le gouvernement. Nous ferons le point sur ce bras de fer figé et médiatisé dans un instant. Vous entendrez aussi les difficultés des petits commerçants à quelques jours des fêtes de fin d'année. Les clients se font rares. Dans ce journal, bilan de la COP25 qui a abouti à un semblant d'accord. Plusieurs pays ont tout fait pour freiner les avancées climatiques au profit d'investissements économiques. Au Liban, les parlementaires se penchent aujourd'hui sur la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le week-end a été marqué par de fortes tensions, notamment à Beyrouth, où nous irons dans quelques minutes. Et puis nous irons aussi à Pékin. À Hong Kong, la rumeur d'un remaniement grandit. Et c'est à Pékin, justement, que la chef de l'exécutif est en ce moment. La semaine s'ouvre donc sans compromis à l'horizon sur la réforme des retraites. Rien, même pas une date pour des négociations comme le souhaite le gouvernement. Il appelle les syndicats réformistes à la discussion. On ne sait pas encore s'ils se rendront à Matignon et si oui, quand cette semaine. Une chose est sûre, la situation est pour le moment bloquée. Le dialogue semble difficile entre syndicats et gouvernement. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
C'était criant ce week-end dans les médias, Stéphane. Chacun accuse l'autre d'immobilisme, un bras de faire mise en scène.
Oui, malgré les fêtes qui approchent, on est resté tout au long du week-end dans un concours de gros bras, dans une mise en scène de l'affrontement par médias interposés entre d'un côté le gouvernement et de l'autre la CGT qui incarne les syndicats qui refusent tout en bloc, la réforme des retraites comme les discussions. Cet état qui montrerait le plus à quel point son camp est déterminé. À la manœuvre pour le gouvernement, on a beaucoup vu et entendu le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Il était notamment hier soir sur BFM TV.
La République, elle ne peut pas subir de chantage. Et aujourd'hui, ceux qui font grève, on est bien d'accord que c'est des gens qui choisissent de faire grève. Et manifestement, alors il y a les vacances de Noël, c'est sûr, mais dès aujourd'hui, empêche les Français de vivre normalement. Il y a plein de gens, y compris des salariés sans doute, que défendent une grande partie des syndicats qui font grève, qui vivent aujourd'hui dans des conditions inacceptables. Des gens qui prennent pas de pause déjeuner pour reprendre le train de banlieue, des plongeurs dans des restaurants qui mettent 3 heures pour venir à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter Paris intramuros, parce qu'ils subissent des grèves. L'année dernière, c'était déjà le cas. L'année dernière, à la demande de la CGT, c'est 36 jours de grève.
Du côté syndical, la centrale CGT a continué d'expliquer qu'elle continuerait à tout bloquer tant que le gouvernement ne retirerait pas sa réforme. C'était entre autres le cas de Didier Lorest de la CGT Cheminots.
Dans la mesure où les raisons qui ont amené les salariés à rentrer dans un mouvement social contre le système de retraite à points, ces raisons demeurent depuis le 5 décembre. Donc à partir de là, quand on est en responsabilité syndicale, qu'on a appelé ses collègues de travail à la grève, je vois pas, notamment au bout de 12 jours de grève, de leur dire, écoutez, maintenant, on va faire une pause et on va reprendre le travail.
On voit que ce qui se joue là, c'est la bataille de l'opinion, avec la CGT qui fait le pari, que ce mouvement, malgré les désagréments, continuera à être soutenu par une majorité de Français, tandis que le gouvernement lui fait le pari inverse. Et puis l'exécutif mise aussi sur la division syndicale et sur les discussions qui vont s'engager avec les syndicats réformistes, notamment avec la CFDT de Laurent Berger, qui a été invité à Matignon. On ne sait pas encore quand il s'y rendra, vraisemblablement après la manifestation prévu demain. Philippe Martinez de la CGT, lui en revanche, n'a pas été invité.
Et au milieu de ces échanges, Stéphane, une affaire vient fragiliser le gouvernement. C'est Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, qui a oublié de déclarer 10 fonctions à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le quotidien Le Monde le révélait samedi soir.
Oui, dans la déclaration qu'il a transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il avait déclaré 3 mandats alors qu'en réalité il en occupe 13. Parmi les 10 mandats qu'il a oublié de mentionner, il y avait un siège au conseil d'administration de la Fondation SNCF ou encore un poste de président de l'Observatoire de la commande publique de la région Hauts-de-France. Tous ces mandats étaient exercés à titre bénévole, mais posent la question d'éventuels conflits d'intérêts. Le problème est qu'il a aussi déclaré des activités rémunérées alors qu'il n'avait plus le droit de l'être en tant que membre du gouvernement selon l'article 23 de la Constitution. Alors pour le moment, il est défendu par le gouvernement qui plaide sa bonne foi, mais il est très fragilisé. Et à terme, il est peu probable qu'il soit maintenu dans ses fonctions et qu'il défende cette réforme devant les parlementaires en février. Toute la question semble être de savoir à quel moment il est le plus opportun qu'il démissionne.
Et la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique pourrait saisir la justice. Elle donnera sa décision mercredi. Merci beaucoup Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Alors que débute donc un 12e jour de grève dans les transports, toujours à la SNCF et en Ile-de-France à la RATP. Des perturbations sur les rails, auxquelles s'ajoutent des blocages sur les routes. Les routiers entament une grève aujourd'hui, non pas spécifiquement sur les retraites, mais pour de meilleures conditions de travail et une rémunération plus élevée. Quatre syndicats promettent une forte mobilisation sur les routes de France et cela a déjà commencé notamment à Vannes dans le Morbihan ce matin. Ces perturbations dans les transports ont un effet déjà visible sur les recettes des commerçants pour ce mois de décembre. En Ile-de-France, surtout, les traditionnelles courses de Noël se font rares dans les magasins. Laura Dulieu l'a constaté ce week-end.
Il y a du monde ce samedi après-midi dans les allées du centre commercial Les Quatre Temps à La Défense, près de Paris. Mais il ne faut pas s'y tromper, affirme Anaïs, gérante d'une boutique de décoration.
La Défense, à cette période de l'année, c'est noir de monde. Et là, on n'y est pas du tout, quoi. Et on a commencé à avoir du monde qu'à partir de 13h30, quand les RER A ont commencé à arriver.
Un constat et une inquiétude partagée aussi par Fabienne, à la tête d'une boutique de bien-être.
Cette grève qui est interminable, hein. On la vit très mal, mais sans parti pris. On est vraiment pénalisé et c'est dommage parce que ça va jouer de manière économique sur peut-être des emplois et des décisions d'activité. Donc c'est le petit peuple qui souffre, notamment nous, salariés avec des entreprises.
Et selon Gontran Turing, délégué général de la Confédération nationale des centres commerciaux, leur fréquentation en Ile-de-France est en baisse de 12% depuis le début du mouvement social, moins 3% en région.
Sachant qu'on a un comparatif qui est négatif, puisque évidemment l'année dernière, les centres étaient déjà impactés par la crise des Gilets jaunes, donc c'est du négatif sur du négatif. Par rapport à 2017, qui peut être l'année de référence normale, entre guillemets, on est effectivement à peu près à moins 20% en termes de fréquentation.
L'inquiétude gagne aussi les petits commerçants qui ne bénéficient pas d'un report des clients sur les commerces de proximité. Francis Palombier, président de la Confédération des commerçants de France.
La psychose de l'achat est là. D'une manière globale, dans Paris, tout secteur d'activité, c'est de 30 à 50% d'effets négatifs sur la consommation en pourcentage.
Francis Palombier qui appelle les syndicats mais aussi l'État à une trêve, au moins jusqu'à la fin des soldes d'hiver, et pose la question du moment choisi par l'exécutif pour sa réforme.
Est-ce que c'est bien la bonne date de faire des négociations, de traiter un sujet aussi important que la réforme des retraites fin novembre, début décembre, à quelques jours des fêtes?
Le gouvernement a déjà annoncé le maintien des mesures d'urgence déjà mises en place après le mouvement des Gilets jaunes, comme davantage d'ouvertures autorisées le dimanche ou encore des reports de charges fiscales et sociales.
Et des réunions doivent se tenir tous les deux jours, normalement à Bercy, pour un bilan actualisé de la situation des commerçants. Autre conséquence des grèves et de la mobilisation nationale prévue demain à l'Université de Lille, une partie des examens prévus ce mardi est reportée. Les partiels touchés n'auront pas lieu avant janvier ou février prochain, en fonction de l'organisation. Ces mesures ont été prises pour la faculté de droit et de sciences politiques, celle de sciences économiques et sociales, des sciences et technologies et l'école d'ingénieurs polytech. Tout cela à cause des perturbations dans les transports ainsi que de la grève d'une partie du personnel de surveillance. 3 morts et 5 blessés. Les intempéries dans le sud-ouest ont été violentes. C'est la semaine dernière. 2 personnes ont été emportées par des cours d'eau en crue. Une troisième est décédée lorsque son véhicule a percuté un arbre tombé sur la chaussée. Hier soir, près de 3400 foyers étaient encore privés d'électricité à cause des vents violents. L'échec est presque total. La 25e conférence sur le climat se terminait hier midi à Madrid, après 2 semaines de débats. Ce fut d'ailleurs la plus longue des COP. Pour autant, ces négociations n'ont abouti à aucune avancée. Les dirigeants n'y ont adopté qu'un accord à minima. Même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'une occasion ratée. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
Qui était à la manœuvre pendant ces 2 semaines pour faire échouer cette COP 25 et surtout sur quel sujet?
Souvenons-nous surtout de ce slogan. C'était le slogan omniprésent sur les murs de cette COP 25, il est temps d'agir pour rappeler, s'il le fallait, à chacun l'urgence absolue d'éteindre l'incendie. Résultat, non seulement la maison va continuer de brûler, et on n'entend toujours pas la sirène des pompiers, silence total, déconnexion totale, la vaste majorité des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre n'a pas confirmé son intention de revoir ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre à la la hausse d'ici 2020. Les principaux pollueurs, Chine, Inde, Brésil, Australie, Japon, États-Unis, à la manœuvre dès le premier jour, n'ont cessé de freiner, de bloquer toute action climatique jusqu'à cette insignifiante déclaration hier. Il faudra mettre l'accent sur l'urgence à augmenter l'ambition. Mais quand ça, bientôt, eh bien en 2020, année de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et du retrait aussi des États-Unis de cet accord. Il y a ceux qui ont trahi plus que d'autres, l'Australie, les États-Unis, qui ont bloqué toute avancée sur la question des financements, sur la question des pertes et des dommages irréversibles, des aides pour ceux qui ont déjà tout perdu. Inflexible aussi l'Australie toujours et le Brésil sur l'épineux dossier des marchés carbone et qui défendaient des règles comptables avantageuses pour leur pays, mais inacceptables. Discussion remise à plus tard. Quelques heures d'ailleurs après la fin de la COP, le ministre de l'Environnement brésilien, provoquant jusqu'au bout, publiait une photo sur les réseaux sociaux d'un énorme plat de viande avec ce message « Pour compenser nos émissions à la COP25, un déjeuner veggie », un assez bon résumé de l'état d'esprit de cette COP de Madrid finalement, surtout un signe qui ne trompe pas, aucun chef d'État n'avait fait le déplacement à Madrid ces derniers jours, du jamais vu.
Merci beaucoup Véronique Rebérotte, spécialiste environnement de France Culture, pour ce bilan assez affligeant de cette COP25. Le monde et la pollution encore, l'Iran est touché en ce moment. Les écoles sont fermées depuis hier dans plusieurs villes du pays à cause d'une pollution atmosphérique qui atteint de nouveaux seuils d'alerte pour la santé. L'Iran, où au moins 304 personnes ont été tuées lors de la répression de la contestation mi-novembre. Nouveau chiffre publié par Amnesty International ce matin. Il y a un mois, le gouvernement iranien avait coupé Internet pour que les informations sur la contestation ne sortent pas du pays. Là aussi, il est question de contestation contre un pouvoir accusé de corruption. Au Liban, le week-end a été tendu avec des violences particulièrement marquées samedi. Et hier soir, le centre de Beyrouth était toujours occupé par des manifestants, Aurélien Colli.
Plusieurs milliers de personnes hier sur la place des Martyrs, épicentre de la contestation à Beyrouth, pour dénoncer un samedi de violences contre les manifestants et leur campement, attaqués par des sympathisants des deux partis chiites opposés à cette révolte, Amal et Hezbollah, chargés aussi sans ménagement par certaines forces de l'ordre. Ils veulent écraser la révolution, mais elle résistera à quelques temps de cassé, lance Lana, la cinquantaine, présente tous les jours depuis mi-octobre. À quelques mètres, Mona et Joseph, 70 ans passés.
Aujourd'hui, on vient, moi et mon mari, pour cette répression inadmissible. Mais je pense aussi que ce pacifisme de la révolution doit être soutenu.
Mais après bientôt 2 mois de mobilisation pacifique, certains commencent ouvertement à douter. Le gouvernement nous dit on ne réagira pas à vos manifestations, on va vous briser, ils incitent à la violence, donc il faut aussi l'utiliser pour être pris au sérieux, explique Mohamed, la trentaine, masque à gaz en bandoulière, avant une nouvelle soirée marquée par des affrontements.
C'était Aurélien Colli à Beyrouth pour France Culture, alors que ce lundi, les parlementaires libanais doivent en principe réfléchir à la nomination d'un nouveau Premier ministre après la démission de Saad Hariri. Week-end de tension également à Hong Kong. La police est intervenue dans 2 centres commerciaux face à des manifestants pro-démocratie, sous les huées de passants. Une partie de la population proteste toujours contre le pouvoir chinois qui dirige à distance la mégalopole. C'est d'ailleurs à Pékin que se trouve en ce moment Carrie Lam, Dominique André.
La chef de l'exécutif local est officiellement à Pékin pour une visite de routine qui dure tout de même 4 jours. Carrie Lam est arrivée samedi, elle repartira demain. C'est son premier voyage dans la capitale chinoise depuis la défaite sévère de son camp politique aux élections locales de novembre. Elle s'était soldée par une victoire magistrale des candidats pro-démocratie qui ont remporté 90% des sièges de représentants dans les districts. Carrie Lam, dont la démission est toujours exigée par les manifestants, a toute une série de rendez-vous dont avec Xi Jinping, qu'elle a déjà vu aussi à Shanghai le mois dernier. La priorité du gouvernement communiste chinois est de rétablir l'ordre, mais les rumeurs d'un remaniement ministériel à Hong Kong sont de plus en plus persistantes, surtout depuis la défaite du camp pro-Pékin à ses élections locales. Carrie Lam elle-même n'a pas démenti cette hypothèse lors d'une conférence de presse la semaine dernière. La situation politique, mais aussi économique, de ce territoire semi-autonome qui est en récession, sont au centre des discussions. allocution de la chef de l'exécutif local. Si l'exigence de liberté est fondamentale pour les Hongkongais, la crise est aussi alimentée par une fracture sociale grave au sein de la société, accompagnée d'un manque de perspective pour la jeunesse de Hong Kong.
C'était Dominique André à Pékin pour France Culture. Il l'appelle le pacte des villes libres. Les maires de Budapest, Prague, Varsovie et Bratislava se retrouvent aujourd'hui pour signer un texte commun contre le populisme. Ils seront pour cela à Budapest, Eric Biegela.
Le pacte des villes libres sera pour ainsi dire le double inversé du fameux groupe de Visegrad. Ce regroupement des quatre pays d'Europe centrale emmené par le champion de l'illibéralisme, le premier ministre hongrois Viktor Orban. Dans chacun de ces pays, en effet, la capitale est restée ou est récemment passée dans le camp des libéraux. C'est notamment le cas à Budapest, dont la mairie a été remportée en octobre par Gergely Korácsán, jeune professeur de sciences politiques opposant farouche à Viktor Orban. À Prague, c'est un jeune médecin qui avait pris les rênes de la capitale l'an dernier. Pareil à Bratislava, en Slovaquie. Un architecte, indépendant des partis, avait lui aussi raflé la mairie. Quant à Varsovie, la capitale polonaise est toujours restée dans le giron de l'opposition au PiS. Ces quatre maires, désormais chefs de file d'opposition libérale, pilotent aussi des budgets importants et bénéficient de subventions européennes conséquentes. Et justement, ce pacte devrait être l'occasion d'entamer un dialogue direct entre ces quatre villes et Bruxelles pour transférer davantage de fonds européens directement vers elles. L'idée étant bien sûr d'arriver à court-circuiter les administrations centrales des quatre pays, pour certaines soupçonnées d'ailleurs d'avoir fait main basse sur une partie des fonds européens.
Éric Biegala, revenons en France pour quelques mots de météo. Le vent souffle toujours sur le sud-ouest ce lundi. La pluie, elle, va balayer le nord du pays, de la Loire-Atlantique jusqu'à la Moselle. Ailleurs, les éclaircies se feront une place avec 7 degrés ce matin à Besançon, 8 à Lille, 9 degrés à Paris et Nantes, 15 degrés à Marseille. Vous retrouverez Margot Delpierre à 9h pour le prochain journal.